Vous écoutez, on lit pour vous.
Des vertiges sans avertissement. Un texte de Maud Raymond, paru le 23 avril 2025 dans Québec Science. La cause la plus fréquente de vertige est bénigne. L'expérience n'en est pas moins impressionnante. Zoom sur les vertiges positionnels paroxystiques bénins. On me consulte souvent pour des vertiges et des étourdissements. Il s'agit d'une sensation assez unique où, soudainement, le monde se met à tourbillonner alors qu'on est immobile. C'est ce qui arrive à Lucie, une femme de 55 ans venue me consulter pour ce problème. Après le premier épisode, elle était bien inquiète. Après ses recherches sur Google, la quinquagénaire craignait un accident vasculaire cérébral, AVC. Même s'il est vrai que des troubles neurologiques liés à un AVC ou une tumeur cérébrale peuvent parfois causer ces symptômes, la cause la plus fréquente de vertiges reste les vertiges positionnels paroxystiques bénins, ou VPPB. Et comme leur nom l'indique, ils sont sans gravité. L'expérience du VPPB est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécue. Ce qui distingue ces vertiges des autres pertes d'équilibre, c'est qu'ils surviennent souvent après un changement brusque de position. Imaginez-vous en train de vous reposer sur votre canapé. Puis, alors que vous vous levez pour aller chercher une collation, un vertige intense vous saisit. Votre tête tourne comme si vous étiez dans un manège. Ces vertiges s'accompagnent souvent d'une sensation de perte d'équilibre ou d'un flottement, comme si vous étiez sur le point de vous envoler, mais cela ne dure généralement que quelques secondes. Le VPPB est en fait un trouble de l'oreille interne où se trouvent des cristaux appelés otolithes. Quand ceux-ci se détachent et bougent de façon anormale dans l'oreille interne, le cerveau s'imagine à tort que la tête change brusquement d'orientation, comme si on était violemment secoué. C'est là qu'on perd l'équilibre et qu'on a la sensation que tout tourne autour de nous. Comme c'est la première fois que Lucie subissait ce type de vertige, il était essentiel de passer en revue toutes les causes possibles en posant les bonnes questions et en s'appuyant sur un examen physique. Dans son cas, il n'y avait ni nausée, ni vomissement, ni changement auditif. Les symptômes ont commencé après qu'elle eut lavé ses planchers à quatre pattes. Ces indices orientent clairement vers un diagnostic de VPPB. Pour en être certaine, je devais toutefois procéder à un examen otorhino-laryngologique, ORL, et neurologique complet. Ici, le test à effectuer est la manœuvre de Dix-Hallpike. Cela consiste à provoquer le déplacement des cristaux dans l'oreille interne en plaçant la tête dans différentes positions. Pour chacune, j'évalue le vertige ressenti et j'observe s'il y a un nystagmus, soit un mouvement rythmique involontaire des yeux. Lucie ressentait un vertige et ses yeux effectuaient des mouvements rotatoires quand sa tête était orientée vers la gauche. Maintenant que nous savons que Lucie souffre d'un VPPB, le traitement consiste à repositionner correctement les cristaux dans son oreille interne gauche grâce à la manœuvre d'Epley, l'une des techniques les plus utilisées. Il s'agit de faire prendre différentes positions à Lucie pour ramener les cristaux à leur place par simple gravité. Par la suite, elle devra éviter les mouvements brusques de la tête. La plupart des personnes atteintes se rétablissent rapidement après quelques séances, mais un suivi régulier est parfois nécessaire pour éviter les récidives. Un ou une professionnelle de santé, comme un physiothérapeute, pourra pratiquer cette manœuvre et accompagner la personne dans sa récupération. Alors, si ça tourne, ne vous arrêtez pas au diagnostic de Dr. Google. C'était « Des vertiges sans avertissement », un texte de Maud Raymond, paru le 23 avril 2025 dans Québec Science.
Deux zones routières hostiles bientôt sécurisées à Montréal, un texte de Marco Fortier paru le 14 mars 2025 dans Le Devoir. Deux secteurs de Montréal parmi ceux considérés comme les plus dangereux pour les piétons et les cyclistes seront sécurisés au cours des prochains mois. L'intersection des avenues du Parc et du Mont-Royal, à deux pas de la montagne, sera réaménagée et deux voies de circulation de la rue Hochelaga dans l'est de l'île seront éliminées sur une distance de 6,5 km pour apaiser la circulation. L'administration de Valérie Plante s'engage dans un sprint de fin de mandat d'ici au scrutin du 2 novembre 2025 pour remplir sa promesse de rendre la ville plus sûre pour les usagers vulnérables. Traverser cette intersection, c'est long, c'est insécurisant, c'est hostile quand tu es un piéton, lance Marianne Giguère, conseillère associée à la mobilité active à la Ville de Montréal. On la rencontre à l'angle des avenues du Parc et du Mont-Royal, une des intersections les plus risquées en ville. L'avenue du Parc a des allures d'autoroute, avec ses trois voies dans chaque direction. Pas moins de 78 collisions sont survenues à cet endroit entre les années 2015 et 2021. Si on ajoute d'autres intersections des alentours, le bilan monte à 219 collisions durant ces 6 années. Un cycliste, Andrea Rovere, a été heurté mortellement par un camion en septembre 2021. Un vélo fantôme blanc placé au coin nord-ouest de l'intersection Parc Mont-Royal témoigne du drame qui s'est joué ce jour-là. Piste cyclable. Le réaménagement de ce secteur à compter de ce printemps vise à apaiser la circulation. Une piste cyclable unidirectionnelle dans chaque direction sera aménagée sur l'avenue du Mont-Royal entre le chemin de la côte Sainte-Catherine et la rue Saint-Urbain. Une vingtaine de places de stationnement seront enlevées. Tous les commerçants ont été rencontrés. C'est sûr que de perdre du stationnement, c'est insécurisant quand tu as un commerce. On leur explique la raison et les gens finissent par comprendre, dit Marianne Giguère. Des espaces supplémentaires de stationnement tarifés seront aménagés sur la rue Jeanne-Mance qui croise l'avenue du Mont-Royal. Des zones de piétonnisation hivernale à Montréal. Un chaînon manquant du lien cyclable entre le plateau et Outremont sera aussi achevé avec le prolongement de la piste du chemin de la côte Sainte-Catherine entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Villeneuve. Ces voies pour vélos seront séparées de la chaussée par une bande de béton ou des bollards. De la signalisation avertira les automobilistes de la présence de vélos et de piétons. Les feux de circulation seront reprogrammés pour permettre à ces usagers vulnérables de circuler en toute sécurité. Vers un apaisement. À 5 km de là, la rue Hochelaga, dans le quartier du même nom, a aussi des allures d'autoroute. Trois voies dans chaque direction. Les cyclistes se font frôler, les piétons traversent à leur risque et péril. Cette artère sera complètement réaménagée sur une distance de 6,5 km avec une piste cyclable unidirectionnelle dans chaque direction. Des traverses pour piétons bien signalées seront construites à une série d'intersections près de stations de métro, d'écoles, de garderies ou de résidences pour personnes âgées. Une voie de circulation sera éliminée dans chaque direction pour laisser place aux pistes cyclables. Les espaces de stationnement seront conservés le long de la rue. Consultés, les riverains, commerçants et résidents ont préféré sacrifier une voie de circulation dans chaque direction plutôt que des places de stationnement, explique Sophie Moserolle, responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. La circulation sera apaisée et les piétons et cyclistes seront en sécurité grâce à cette nouvelle configuration, fait valoir la conseillère municipale. On réduit la largeur de la rue, ce qui inévitablement aura une incidence sur la vitesse, dit-elle. Rencontrée en bordure de la rue Hochelaga, près de la station de métro Joliette, Les voitures, les camions et les autobus font un vacarme en circulant à toute vitesse. Péril routier. Une première section de 2,5 km de la rue Hochelaga entre l'avenue Desjardins et la rue du Havre sera remise à neuf à compter du printemps. Pas moins de 398 collisions ont été recensées sur ce simple tronçon entre les années 2015 et 2021. L'administration Plante cherche à apaiser des zones propices aux collisions comme celle-là. Mais c'est l'ensemble de la ville qu'il faut sécuriser, fait valoir Sophie Moserolle. Les décès de piétons et de cyclistes sur nos rues sont en croissance et deviennent un fléau au Québec, dit-elle, en rappelant la série de reportages du Devoir sur l'insécurité engendrée par la culture de l'automobile. Entre les années 2014 et 2023, les collisions sur l'île de Montréal ont tué 161 piétons et 23 cyclistes. Il meurt deux fois plus de marcheurs que de conducteurs sur le territoire métropolitain. C'est autant de piétons décédés que de soldats canadiens tués en Afghanistan durant la guerre une décennie auparavant. À ce nombre tragique, il faut ajouter 743 piétons et 246 cyclistes qui ont subi des blessures graves. Cela représente 18 autobus de la STM pleins. C'était deux zones routières, hostiles, bientôt sécurisées à Montréal, un texte de Marco Fortier paru le 14 mars 2025 dans Le Devoir.
Renouer nos liens à l'alimentation. Un texte de Damien Conaré, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO. Au cours des dernières décennies, notre système alimentaire s'est profondément modifié. De fait, la nourriture n'a jamais été disponible en aussi grande quantité, même si elle n'est pas répartie également sur la planète, et l'offre alimentaire aussi diversifiée. Les aliments mondialisés et ultra-transformés se sont invités à notre table, ce qui a des conséquences majeures sur notre santé et sur l'environnement. Mais si les modes de production et de consommation ont changé, les aliments continuent de façonner nos expériences émotionnelles et culturelles. La cuisine demeure ce qui nous relie à nous-mêmes, aux autres et plus largement aux vivants. À l'échelle mondiale, jamais autant de nourriture n'a été disponible en quantité et qualité. Cette prouesse a été rendue possible par des processus d'industrialisation de nos systèmes agricoles et alimentaires opérés dans certaines régions du monde dès la fin du 19e siècle. Nous sommes en effet passés d'un système de production qui fonctionnait avec pour principale énergie le soleil à des systèmes fondés sur l'usage massif de ressources minières non renouvelables, charbon d'abord, pétrole et gaz ensuite, utilisés pour la mécanisation et l'usage de produits de synthèse, engrais, herbicides et insecticides. L'offre alimentaire a suivi de son côté les évolutions technologiques, qu'il s'agisse de la machine frigorifique, 1858, de l'irradiation des aliments, 1905, de la congélation rapide, 1929, du micro-ondes, 1947, ou encore de l'ultrafiltration du lait, 1969. L'automatisation du travail dans les usines agroalimentaires a par ailleurs permis d'augmenter les rythmes de production d'aliments standardisés. À la fin du XXe siècle, un nouvel acteur a acquis un pouvoir croissant. La grande distribution, qui s'implante presque partout dans le monde, avec l'émergence des classes moyennes, favorisant l'accès à une alimentation le plus souvent bon marché. Mais aujourd'hui, les limites des systèmes alimentaires industrialisés apparaissent flagrantes face aux enjeux de durabilité, avec des effets sur la santé, l'environnement ou encore les inégalités sociales et économiques. Produits gras et sucré. Si la nourriture, globalement, n'a jamais été aussi abondante, elle est loin d'être également répartie. Selon le dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié par 5 agences des Nations Unies, la faim touchait encore en 2023 près de 730 millions de personnes, soit une personne sur 11 dans le monde, une sur 5 en Afrique. Une situation notamment liée au maintien de la pauvreté, à la persistance de l'inflation du prix des denrées alimentaires et surtout à la multiplication des crises climatiques et des conflits. Parallèlement, la consommation croissante de produits gras et sucrés, combinée à la réduction de l'activité physique, se traduit par une augmentation du surpoids et de l'obésité qui augmente les risques de pathologies telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Les projections indiquent que d'ici 2030, le monde comptera plus de 1,2 milliard d'adultes obèses. En matière environnementale, le coût d'un tel système de production alimentaire est également élevé. On estime qu'à l'échelle mondiale, l'agriculture et les industries alimentaires seraient responsables du tiers des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. À cela s'ajoute la pollution des eaux, la disparition des pollinisateurs et la baisse de la fertilité des sols due à l'usage massif de produits chimiques, ainsi qu'une forte érosion de la biodiversité cultivée. Au plan socio-économique, enfin, la forte concentration des entreprises tout au long de la chaîne alimentaire a contribué à créer des groupes aux positions dominantes qui affaiblissent l'autonomie et les revenus des agriculteurs. Nouvelles pratiques de consommation. Dans le même temps, les grandes évolutions sociétales ont redessiné nos rapports à l'alimentation. En ville, le pouvoir d'achat devient le principal facteur d'accès à l'alimentation. Par ailleurs, comme on travaille souvent loin de son domicile et que les rythmes de vie s'accélèrent, le gain de temps et la praticité deviennent des critères importants. Commandes de plats déjà préparés, sous-traitance de certaines tâches alimentaires, etc. Ensuite, les migrations internationales et, plus récemment, l'influence des réseaux sociaux ont enrichi les styles alimentaires de nouveaux produits et pratiques de consommation. En témoignent les cuisines du Mexique, de l'Asie du Sud-Est, du Japon ou encore du Liban qui se sont diffusées dans de nombreux pays. Des plats traditionnels comme les tacos, le taboulé ou la pizza ont été adoptés ou réinterprétés au gré de leur parcours. Enfin, l'individualisation des modes de vie se traduit par de nouveaux comportements alimentaires. Régimes particuliers, repas partagés mais plus nécessairement avec la même nourriture, optimisation de soi à travers une nutrition personnalisée spécifique de ses besoins biologiques, etc. Ces évolutions, combinées à l'industrialisation de nos systèmes agricoles et alimentaires, ont conduit à différents phénomènes de distanciation. Économique, avec la multiplication des intermédiaires entre agriculteurs et consommateurs, géographique, avec l'éloignement des zones de production, cognitive, avec la perte de contact entre citadins et agriculteurs, qui génère une méconnaissance de la chaîne alimentaire. Cette distanciation est également sensorielle. Alors que l'on évaluait la qualité des aliments en goûtant, en reniflant ou en tâtant, on le fait de plus en plus en lisant l'information portée sur les emballages. Une façon d'être au monde. Il convient donc aujourd'hui de réduire ces différentes distances pour renouer les liens perdus à notre alimentation. D'autant que, comme fait social total, l'alimentation constitue un moyen essentiel de construction de nos différentes relations dans le monde. elle joue un rôle clé dans nos relations à nous-mêmes d'abord, tant le corps nourri soulève des questions de santé, mais aussi d'émotions, de plaisir et de construction de nos identités individuelles et collectives. Car l'acte alimentaire est objectif, mais aussi symbolique. Il influence autant la santé du mangeur que la façon dont il s'affirme dans le monde. L'alimentation est aussi déterminante dans nos relations aux autres, à travers la convivialité des repas partagés, la transmission des règles de table et des savoir-faire culinaires, le métissage des cultures alimentaires, etc. Partager un repas est un moyen de se relier aux autres. Manger la même chair noue des relations communes, puisqu'incorporer l'aliment du collectif, c'est symboliquement s'incorporer soi-même dans le collectif. Elle intervient aussi dans nos relations spirituelles aux mondes invisibles, dans lesquels l'alimentation joue un rôle clé à travers des offrandes, par exemple. Et enfin, elle façonne nos relations à la biosphère, avec les autres vivants non humains, les mondes animal et végétal, les paysages façonnés par l'agriculture, mais aussi avec tout l'univers microbien, qui à la fois nous compose, le microbiote intestinal, et joue un rôle clé dans la transformation et la conservation de nos aliments, pour la fermentation par exemple. L'ensemble de ces relations nouées par l'alimentation invite à penser des formes d'engagement pour le changement vers des systèmes alimentaires plus durables, qui contribuent à la santé des individus et des écosystèmes, ainsi qu'à la justice et à la cohésion sociale. L'alimentation est effectivement bien politique. La façon dont on mange et dont on s'organise pour le faire détermine le monde dans lequel on souhaite vivre. Bien manger pour bien apprendre. Apprendre à bien manger. Le rapport publié en mars 2025 par l'équipe du rapport mondial de suivi sur l'éducation, GEM, de l'UNESCO et la London School of Hygiene and Tropical Medicine, souligne à quel point nutrition et éducation ont partie liée. Lancée dans le cadre de la Coalition pour les repas scolaires, qui regroupe une centaine de pays, ce rapport souligne la nécessité d'inscrire l'éducation nutritionnelle et l'accès à des repas scolaires sains sur les agendas politiques mondiaux. Selon l'UNICEF, 148 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance et 45 millions ont un poids trop faible pour leur taille en raison de la malnutrition. La recherche montre qu'une nutrition adéquate dès la petite enfance a un impact considérable sur le développement cognitif, l'apprentissage et même les revenus futurs. Ainsi, selon l'étude Barbados Nutrition Study, menée à la Barbade par des chercheurs de Harvard Medical School sur plusieurs décennies, vivre un épisode de malnutrition modéré à sévère durant la petite enfance accroît le risque de troubles du développement cognitif à l'âge adulte. Pour relever ces défis, le rapport recommande de garantir l'accès de tous à des repas nutritifs, de promouvoir l'éducation alimentaire et de réglementer la commercialisation des aliments malsains destinés aux enfants. Il appelle aussi à favoriser des systèmes alimentaires respectueux de la biodiversité et durables, tels que les initiatives de la ferme à l'école. C'était « Renouer nos liens à l'alimentation », un texte de Damien Conaré, paru dans le numéro avril-juin 2025 du courrier de l'UNESCO.
Dany Laferrière se positionne contre la désinvolture face aux demandeurs d'asile. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir. Les demandeurs d'asile peuvent aussi représenter toute la richesse du monde, prévient Dany Laferrière, qui, pour la seconde fois début avril 2025, a invité les politiciens à faire attention aux mots qu'ils utilisent pour qualifier les gens qui se présentent à nos frontières. Il ne s'agit pas de gens qui arrivent là comme ça, qui ont vécu dans une sorte de « no man's land » pendant des années, se cachant, dit-il. Il y a peut-être des médecins, des avocats, des ingénieurs, des électriciens, des serveurs. Dany Laferrière était invité à l'Assemblée nationale pour recevoir l'insigne de l'Ordre de la Pléiade, un prix honorant les défenseurs de la langue française. Pour une deuxième fois en quelques jours, il a tenu à réagir aux propos tenus par le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge. Ce dernier avait déclaré que le Québec ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde. Il avait tenu ses propos en lien avec la hausse du nombre de demandeurs d'asile récemment recensés à la frontière. Or, Dany Laferrière avance qu'ils sont aussi toute la richesse du monde. Il avait critiqué les propos du ministre une première fois mardi, puis Jean-François Roberge avait maintenu sa position le lendemain. « Je ne regrette pas mes propos, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir davantage de gens », avait réitéré le ministre. C'est combien toute la misère du monde? Interpellé dans un corridor du Parlement par les journalistes, Dany Laferrière a insisté sur le pouvoir des mots. Je ne pense pas que le ministre voulait dire cela exactement de cette manière-là, a avancé le membre de l'Académie française. C'est tout simplement que mon devoir d'écrivain, et je suis à la commission du dictionnaire de l'Académie française, c'est de reprendre la langue. L'écrivain d'origine haïtienne a été d'autant plus touché par cette question qu'un grand nombre de demandeurs d'asile viennent d'Haïti. Les gens se disent que s'il n'y avait pas les Haïtiens au Québec, bien sûr, le Québec aurait survécu, mais il manquerait quelque chose. Ils voient dans la réaction à ces propos de cette semaine le signe que le sujet de la capacité d'accueil doit être davantage discuté. Tout le monde dit « On ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Mais maintenant, il faut nous dire, c'est combien toute la misère du monde? » À un journaliste qui lui demandait s'il reprochait au gouvernement de traiter cette question avec une tête de comptable, il a rétorqué qu'il n'avait rien contre les comptables, qui font un métier merveilleux. Je n'ai pas peur des chiffres. Ce dont j'ai peur, c'est de la désinvolture. C'était Dany Laferrière se positionne contre la désinvolture face aux demandeurs d'asile. Un texte d'Isabelle Porter paru le 10 avril 2025 dans Le Devoir.